VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 1h à Washington, 5h en temps universel. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes, ont invité lundi Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre du G5 Sahel. C'était au sortir d'une rencontre entre les ministres de la Défense nigérien Alkassoum Intadou et Burkinabé Bathérémy Sempore avec le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Mi-mai, les autorités de transition au Mali, empêchées d'en assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes. Bamako a invoqué une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Au Nigeria, le chef de gang Bello Tourji a accepté de mettre fin aux attaques et aux enlèvements contre rançon. C'est ce qu'affirme Hassan Nazia, gouverneur adjoint de l'État de Zamfara, faisant suite à une trêve offerte par les autorités de cet État, situé dans le nord-ouest et ravagé depuis des années par des violences meurtrières. Nous sommes parvenus à un accord de paix avec Tourji et au cours des 6 dernières semaines, pas une seule personne n'a été tuée dans les zones qu'il contrôle, a déclaré M. Nazia. Selon lui, Tourji se bat maintenant avec d'autres gangs qui ont refusé de déposer les armes. Au Kenya, la Cour suprême dispose de 14 jours à compter d'hier pour valider ou invalider les résultats de la présidentielle. Lundi, l'opposant Raila Odinga a officiellement contesté les résultats de l'élection présidentielle du 9 août qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto. Odinga assure avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Un total de 9 recours ont été déposés. Outre celui de M. Odinga, les autres ont été déposés par des ONG et des particuliers. La Cour suprême dispose bien évidemment de 14 jours pour rendre sa décision. En Angola, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Luanda pour le dernier meeting de l'opposition avant les élections législatives de demain mercredi qui décideront du prochain président. Le dirigeant de l'UNITA, le plus grand parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Adalberto Costa Junior, veut mettre un terme à la domination sur ce pays du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola. Le MPLA, justement, est au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Il est dirigé par le président João Lourenço, élu en 2017 et candidat à un deuxième mandat.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Ici, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a demandé lundi à un tribunal de nommer un expert indépendant pour examiner les documents saisis par le FBI lors d'une perquisition à son domicile en Floride. D'après M. Trump, cela permettrait de déterminer si certains d'entre eux peuvent rester confidentiels. Cette perquisition, menée par la police fédérale le 8 août, était illégale et inconstitutionnelle et nous mettons tout en œuvre pour récupérer les documents, a déclaré le républicain dans un communiqué. Les enquêteurs soupçonnent Donald Trump d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention des documents confidentiels. Donald Trump a assuré que ces documents avaient été déclassifiés. Il n'est pour l'instant poursuivi dans aucune affaire. États-Unis, toujours, le docteur Anthony Fauci, principal conseiller du président Joe Biden sur le COVID-19, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions en décembre. Âgé de 81 ans, l'immunologue va se retirer de son poste de directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, qu'il occupait depuis 38 ans. Très respecté, mais aussi détesté par une partie de la population conservatrice, il était devenu ces 2 dernières années le visage de la lutte contre la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Le président Joe Biden lui a immédiatement adressé ses profonds remerciements. Les États-Unis sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui, a salué Biden dans un communiqué. L'Ukraine a reconnu que près de 9000 de ses soldats ont été tués depuis le début de l'invasion russe il y a 6 mois. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé un crime ignoble après la mort de la fille d'un idéologue soutenant l'offensive en Ukraine, tuée par l'explosion de sa voiture près de Moscou. Les autorités russes accusent Kiev qui nie et évoque des affrontements internes dans les services russes. Il s'agit d'une des rares déclarations de responsables ukrainiens au sujet de leur perte militaire dans cette guerre. C'est tout pour ce bulletin d'information. Dans 25 minutes, une édition complète du journal avec Idrissa Seydou Diarra.